Bonjour. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir le troisième volet d'une étude que nous avons déjà commencée depuis un petit moment et qui est l'annonce prophétique de Christ, c'est-à-dire de considérer, de regarder comment dans les textes de l'Ancien Testament le Messie était annoncé. Et j'avais comparé ces annonces à des routes, non pas géographiques dans l'espace, mais à des routes dans le temps qui convergent vers ce personnage unique qu'est Jésus-Christ. Alors nous avions vu d'abord la route que j'avais appelée la route du Messie roi, fils de David, c'est-à-dire le Messie annoncé comme étant un descendant de David et comme étant le roi. Nous avions considéré ces textes-là qui aboutissent à Jésus. Ensuite, nous avions vu la route du serviteur souffrant, qui, elle aussi, à travers principalement Ésaïe, mais d'autres textes plus tardifs, aboutissent à Jésus. Et je vous invite aujourd'hui à considérer une troisième route que je vais appeler la route du Fils de l'homme. Alors, d'où part cette route du Fils de l'homme ? Donc, elle part du livre de Daniel. Et je vous invite à lire dans Daniel au chapitre 7, une bonne partie de ce chapitre. Alors, qui est Daniel ? Daniel est un otage. Daniel est un juif, né à Jérusalem. Mais Jérusalem, à son époque, a été conquise par le roi de Babylone, qu'on appelle Nabucodonosor. Et ce roi ou cet empereur de Babylone a envahi toute la région et a conquis Jérusalem. Et comme Jérusalem, à cette époque-là, est une ville très turbulente, qui s'est plusieurs fois rebellée contre son autorité, il a emporté des otages, des enfants de notables, des enfants, des gens importants de l'époque. Et Daniel est un de ces otages qui est emporté tout jeune à Babylone et qui va devoir apprendre la langue des Babyloniens et servir le roi de Babylone. Nous sommes donc en 580 avant Jésus-Christ. Et là, Daniel est devenu un sage, respecté par ceux qui l'avaient enlevé, et il est même devenu un très haut fonctionnaire du roi de Babylone. Du temps a passé, nous ne sommes plus sous Nabucodonosor, mais dans le règne d'un de ses descendants qui s'appelle Belshazzar. Et je vous invite donc à lire. Daniel, chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, le second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. Et après cela, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Je crois que le mien n'a que deux, mais c'est la seule illustration que j'ai trouvée, excusez-moi. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut assuré pendant un certain temps. Nous n'étudierons pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, cette succession d'animaux. Je vous donnerai juste une ou deux indications. Voici, jusqu'à maintenant, on a planté le décor. Et voici la vision du Fils de l'homme, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Je répète, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu, dont on a eu la description avant, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors je suis sûr que vous pensez, c'est compliqué ça. Ben, vous n'êtes pas le seul, hein, verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me dit et me donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Donc, dans cette vision du livre de Daniel, ce sont en fait des empires qui se succèdent et qui sont représentés par 4 bêtes. Le lion, l'ours, le léopard et la terrible bête. Si on essaie de regarder un petit peu tous les détails qui nous sont donnés, on identifie très facilement le lion avec les Babyloniens, l'ours avec l'Empire perse, le léopard avec la Grèce et Alexandre le Grand notamment, et terrible bête avec l'Empire romain. Daniel a vécu au moment du premier empire, lion. Le lion, c'est celui qu'il a kidnappé et emmené à Babylone. Et il a vécu le changement d'empire, puisque pendant qu'il était à Babylone, est survenu Cyrus, le roi de Perse, qui a donner l'empire suivant. Par contre, il n'a pas connu, de son vivant, ni le léopard, ni la terrible bête. Tous ces empires ont en commun d'avoir opprimé le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient là. C'est pour ça qu'ils sont donnés à Daniel. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, un jour peut-être on pourra reprendre point par point chacun de ces empires, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la fin. Décrétée par Dieu, l'ancien des jours. C'est joli comme nom, vous ne trouvez pas ? L'ancien des jours. Et quelqu'un comme un fils d'homme. On ne sait pas très bien ce qu'il vient faire là. Quelqu'un qui marche sur les nuées du ciel et qui s'avance vers Dieu et qui reçoit de lui la domination, le règne, et tout cela pour l'éternité. Et finalement, le royaume est remis au peuple des saints. La bestialité des empires humains est remplacée par l'humanité de quelqu'un qui marche dans le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fils de l'homme ? En fait, c'est un titre bien banal. Souvent, l'Ancien Testament emploie ce titre pour les hommes en général. Psaume 66, « Venez contempler les œuvres de Dieu, il est redoutable quand il agit sur les fils des hommes. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils des hommes qui ne peuvent vous sauver. » Voilà. Et puis, quand c'est au singulier, ça peut désigner une personne particulière. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, par exemple, vous voyez qu'Ézéchiel, quand il transcrit ce que Dieu lui dit, il utilise cette expression. Ézéchiel 3, par exemple, « Fils de l'homme, c'est Dieu qui parle, fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël. » Mais dans ce passage, ce qui étonne beaucoup Daniel, c'est que ce fils de l'homme, il est dans un endroit un peu inhabituel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur les nuages. Ça ne marche pas. C'est même pas simplement les nuages. Les nuées, c'est un terme un peu technique dans l'Ancien Testament qui désigne la présence de Dieu, qui désigne la gloire de Dieu. Le psaume 104 nous dit « Dieu forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. » Et puis, si vous lisez les histoires qui concernent le tabernacle, vous savez, ce temple portatif que les Juifs avaient avec eux dans le désert, vous savez que quand Dieu était présent dans le tabernacle, la nuée était présente dans le tabernacle. C'était le signe de la présence de Dieu. Moïse savait, parce que Dieu le lui avait dit, qu'aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu, voir la face de Dieu et vivre. Et voilà que Daniel voit un homme qui se promène, on peut dire, sur la gloire de Dieu, sans en ressentir de trouble apparemment. Au contraire, Dieu lui donne tout pouvoir. Donc, ce qui caractérise cette vision de Daniel, c'est le contraste violent entre l'image d'un homme qui a l'air tout simple, bien faible, et ce qu'il est en train de faire, marcher sur les nuées, marcher face à Dieu, rencontrer Dieu et à qui Dieu va donner tout pouvoir. Notre itinéraire aujourd'hui, notre route, notre itinéraire dans l'Ancien Testament va être très court. Parce que Daniel, c'est le seul passage de l'Ancien Testament qui nous parle du Fils de l'homme et qui l'annonce. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça une grande route ? Vous savez que la première fois, je vous avais dit, il y a des grandes routes et puis il y a des petites. On va d'abord étudier les grandes. J'ai appelé ça une grande route parce que ce titre de Fils de l'homme, c'est celui que Jésus a beaucoup, beaucoup utilisé pour parler de lui-même. Et du coup, si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, l'expression « fils de l'homme » que Jésus se donne pour lui-même revient très souvent. Si mon ordinateur ne s'est pas trompé, 81 fois dans les Évangiles. Alors, les gens se sont interrogés. Ils étaient perplexes. En Jean 12, la foule s'interroge et dit à Jésus, « Nous avons appris que le Messie demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Mais qui est ce Fils de l'homme ?» Et Jésus, pourtant, dans les évangiles, va préférer ce titre à un autre, même s'il est énigmatique. Vous vous souvenez ce passage où Jésus demande à ses disciples, on trouve ça dans Luc 9, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et on a cette réaction bizarre de Jésus. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. C'est curieux. Voilà quelqu'un qui a enfin compris qui était Jésus, et Jésus qui recommande de ne le dire à personne. Et il décourage de publier ça. Par contre, il leur dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le Seigneur Jésus n'a pas désiré être appelé Messie par les gens de son temps, probablement parce qu'il savait que les images que les gens avaient sur le Messie, probablement que l'image qu'ils avaient principale, c'était celui qui allait les débarrasser des Romains, celui qui allait régner. Mais il a revendiqué ce titre de Fils de l'homme. Alors il l'a revendiqué à la fois dans ce qui est humble et aussi dans ce qui est glorieux. Comme dans Daniel. Dans Daniel, on a un titre qui est à la fois un titre humble, un fils d'homme, bien faible par rapport aux bêtes terribles qu'on a vues avant, mais aussi un titre de gloire puisqu'il est sur les nuées du ciel vis-à-vis de Dieu. Eh bien, Jésus a revendiqué ce qui est humble. Luc 9, Jésus dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un homme seul, un homme démuni de tout, voilà ce qu'il était. Mais il dit aussi, « Vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique. Et puis il fait des promesses. Jean 6, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Le Fils de l'homme, c'est celui qui peut donner la vie éternelle. Et puis, tout le monde connaît la réponse de Jésus à Nicodème. Vous savez, Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On connaît cette phrase, mais on oublie peut-être les deux phrases qui précèdent. Jean 3, 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et on voit que dans ce passage, Jésus revendique le titre de Fils de l'homme, tout en disant qu'il est aussi le Fils unique de Dieu. Il fait la correspondance entre les deux titres, et ça peut paraître paradoxal. Donc Jésus, c'est bien celui qui va marcher humblement, comme un homme, quelqu'un qui va pleurer, quelqu'un qui va avoir faim, qui va avoir soif, quelqu'un qui va s'apitoyer sur la misère des hommes, mais c'est aussi quelqu'un qui va manifester la gloire de Dieu dans chacun de ses miracles, dans chacune de ses paroles. C'est celui qui pourra dire, comme Cathy nous le rappelait tout à l'heure, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et la nuée dans tout ça, parce que pour l'instant, on est sur terre. On est sur la marche du Fils de l'homme, sur terre. Mais la route du Fils de l'homme ne s'arrête pas sur terre. Elle continue. elle continue dans les cieux. Déjà au moment de la transfiguration, elle apparaît comme une promesse, cette nuée. Vous pourrez lire ça dans Luc 9, versets 28 et suivants. Là, devant les yeux des trois disciples, se trouve réuni Jésus, la gloire, la présence de Dieu et la nuée qui est là présente. Mais surtout, elle apparaît lors de l'ascension. Je n'ai pas pu agrandir plus l'image parce que ça aurait été trop flou. Vous savez, au moment de l'ascension, acte 1, verset 9, « Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et le texte nous dit, « Et une nuée le déroba à leurs yeux. » Le chemin du Fils de l'homme rentre ici dans sa phase céleste. Après avoir marché sur terre, il va marcher dans les cieux à la rencontre de Dieu. Alors, la route du roi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le roi fils de David, était aussi une route qui pointait vers l'éternité. Il était question d'un roi qui régnerait éternellement. Mais il n'était pas du tout question de quelque chose de céleste. On restait sur la terre. Celle du serviteur est aussi une route qui va vers l'éternité, mais toujours plutôt terrestre. Ici, la route du Fils de l'homme se poursuit dans le ciel. Parce qu'on peut se poser la question, mais finalement, vous savez que Daniel avait annoncé une rencontre entre ce Fils de l'homme sur les nuées et Dieu qui lui donnait tout pouvoir. Quand est-ce que cette rencontre a eu lieu? Quand est-ce que Jésus, marchant sur les nuées du ciel, a rencontré le Père? Eh bien, c'est après la croix, la résurrection et l'ascension que Jésus a vraiment réalisé la prophétie de Daniel. Il l'avait dit lors de son procès, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous ne me verrez plus sur terre, mais vous me verrez dans le ciel, par les yeux évidemment de votre foi. » Quand il dit cela, il le dit devant le Sanhédrin, devant ce tribunal qui est en train de le condamner à mort. Et quand il dit cela, il cite textuellement Daniel 7 et il s'attribue toute la gloire à venir. Et qu'est-il allé faire en rencontrant son Père? Il est allé se présenter devant Dieu pour proclamer sa victoire sur le péché, sur Satan, sur la mort. Hébreux 9 nous dit « Christ est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et Dieu lui a donné tout pouvoir. Déjà, au moment de l'ascension, juste avant de l'ascension, Jésus avait anticipé cela en disant à ses disciples, Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » Que fait-il maintenant sur les nuées? Il règne. Nous l'avons chanté tout à l'heure, « Que ton règne vienne. » Mais il règne déjà. L'Épître aux Corinthiens nous dit, chapitre 15, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. » Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Verset 27, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Alors, cette route céleste du Fils de l'homme, elle a une particularité, c'est qu'elle est à double sens. Ce n'est pas un sens unique. Ça veut dire que Jésus reviendra. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Matthieu 24. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voici, Il vient sur les nuées, Apocalypse 1, verset 7. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Lou, tu peux fermer, s'il te plaît. En gloire, il viendra juger, il viendra donner la vie éternelle. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean chapitre 5. Jésus, Fils de Dieu, explique pourquoi il est important pour lui d'être le Fils de l'homme, pour pouvoir juger les hommes. Vous savez que il est important dans un tribunal d'être jugé par des gens qui puissent vous comprendre. Merci. Comment est-ce que Dieu aurait pu juger les hommes tout en restant Dieu? On aurait toujours pu lui dire, mais qu'est-ce que tu sais de notre vie d'homme? Comment peux-tu nous juger? Comment peux-tu savoir ce que c'est que de travailler, d'avoir faim, d'être inquiet pour ses enfants? Et Dieu a prévenu ce genre de reproche en prévoyant que ce n'est pas lui en tant que Dieu qui nous juge, mais un homme, Jésus. C'est ce que Paul va expliquer aux Athéniens en acte 17, où il dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Et il a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alors nous arrivons à la conclusion. Pour ma part, je reste confondu d'admiration devant la sagesse de Dieu. Face aux empires humains, mais qui sont plutôt bestiaux, brutaux, Dieu répond en préparant la fin des temps par un homme. Un homme humble, mais un homme parfait, en qui Dieu lui-même habite, à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et cet homme parfait va satisfaire pleinement Dieu au point qu'il pourra entrer dans le ciel même et régner avec Dieu sur toute la création. En ce moment, il règne et les yeux de notre foi peuvent le voir. Et de là, nous l'attendons pour juger toute création et nous donner la vie éternelle. Alors j'ai trois exhortations en conclusion à vous donner. Adorons-le. Adorons-le. Adorer, c'est admirer quelqu'un. Je vous lis le début de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 12. Je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Curieusement, la description du Fils de l'homme ressemble beaucoup à la description qu'on a lue tout à l'heure dans Daniel 7 de l'Ancien des Jours. Le Fils de l'homme est Dieu. Il est Dieu lui-même. Et ce mélange, si on peut dire, nous le fait comprendre. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Adorons-le. Il est Fils de l'homme, il est Dieu. Deuxième exhortation, gardons la foi. Hébreux 4 nous dit, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Et ma troisième exhortation, c'est soyons confiants. Face aux puissances terrestres qui nous paraissent terrifiantes, porteuses du mal, repensons à la vision de Daniel, où il y avait aussi ces puissances à l'époque qui ont broyé des populations entières, qui ont apporté beaucoup de mal. Repensons à cette vision où Dieu promet que le mal sera vaincu et que le règne sera assuré dans les mains du Fils de l'homme et que nous régnerons avec lui. Daniel 7, verset 18, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement. » Voilà notre part. Merci Seigneur.